La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Elisabeth Assayag et c'est le moment de découvrir la solution du jour avec Dora Nana.
Et oui, vous cherchez des personnes autour de vous pour pratiquer une langue étrangère, vous apprenez des langues ?
J'aimerais bien l'italien.
Eh bien l'italien, pourquoi pas. Une solution existe, Dora, et ça s'appelle Leave, L-E-E-V-E.
Voilà, et c'est une application gratuite qui permet en un clic, donc comme on vient de le dire, de rencontrer dans sa ville des personnes étrangères pour pratiquer une langue, alors que vous soyez en France ou n'importe où dans le monde. Et niveau langue, vous avez l'embarras du choix. Du chinois au russe, on parlait de l'italien en passant par l'albanais, ou même le breton, vous avez aussi des langues régionales.
Des langues régionales,
voilà, exactement. Et l'application a déjà séduit 20 000 personnes. Bonjour Laurie Louvet.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes la fondatrice de Leave. Alors elle marche comment cette appli? On parlait de l'italien, moi j'ai fait du russe au lycée, j'ai envie de m'y remettre, je télécharge votre appli et après.
Et après, vous créez votre profil, donc comme une application de rencontre ou un réseau social, vous mettez votre langue maternelle, les langues que vous avez apprises avec votre niveau de langue et enfin les langues que vous voulez parler. Donc vous avez le choix entre 163 langues, dont le russe par exemple, même les langues des signes aussi.
Alors Leave, c'est L-E-E-V-E. Cette idée, elle vous est venue comment? C'est une expérience personnelle? Vous cherchez vous-même à parler une langue rare?
Oui, c'est ça. En fait, déjà, j'étais nulle en anglais, un peu comme tous les Français, on va dire.
Ouais,
et donc, je me suis rendu compte que j'étais pas si nulle que ça, en fait, quand je suis partie habiter à Londres. Et en fait, en pratiquant, c'est venu très rapidement. C'est là où je me suis dit, en fait, il faut peut-être pratiquer au lieu d'apprendre nos verbes irréguliers par cœur. Et quand je suis arrivée au Vietnam, là, j'étais plus avec des Français, j'avais envie de rencontrer des Vietnamiens. Et je me suis dit, pourquoi pas créer une application qui me permette de mettre en lien, en fait, en fonction des langues, pour moi, aider des personnes à parler français et en apprendre de nouvelles.
Oui, parce que ça marche dans les deux sens. On pense toujours à nous, Français, mais au final, votre appli permet aussi à des étrangers qui vivent en France de rencontrer des Français et de parler notre langue. C'est aussi une promotion de la langue française.
C'est un échange entre deux personnes ou plus.
Qui sont les profils inscrits?
C'est entre 18 et 35 ans pour le moment. Après, nous, on est ouvert, l'application elle est ouverte jusqu'à tout âge. C'est à partir de 18 ans. C'est des personnes, soit qui sont passionnées par la langue, ça va être des personnes qui vont partir à l'étranger pour pouvoir se préparer, pour avoir des bons plans. Par exemple, vous êtes à Paris, vous allez partir à Barcelone, vous avez envie de peut-être rencontrer, pratiquer l'espagnol avant d'y aller. Et ça va être donc des étrangers qui sont soit en France ou dans un autre pays pour pouvoir s'intégrer, se faire des amis plus facilement.
Et vous avez essayé de développer quelque chose avec les universités, je crois, justement, les communautés, leur faciliter la tâche en vue de l'expatriation de leurs élèves.
Oui, en fait, donc l'application, elle est gratuite pour tout particulier. Et on vend en fait en marque grise, donc c'est un peu comme une marque blanche, à des écoles, à des universités, aussi, pourquoi pas, aux entreprises, pour faciliter en fait l'intégration de leurs étudiants, par exemple, pour une école, qui partent à l'étranger ou qui arrivent.
Comment ça se passe? Et par exemple, moi, j'ai envie de pratiquer mon anglais avec une personne donc, qui est à côté de chez moi, donc je vais être géolocalisée. C'est vous qui allez mettre le point de rendez-vous
C'est comme une application, on va dire, de rencontre, c'est-à-dire que vous êtes géolocalisée. Nous, en fonction des langues que vous avez choisies, donc l'anglais ici, on va vous proposer des profils qui matchent avec l'anglais. Donc, ça va être des anglais, mais aussi d'autres personnes qui parlent anglais. Et on va vous proposer plusieurs profils sur l'application. Vous envoyez une demande d'amis. Si la personne accepte, là, vous pouvez chatter sur l'application.
Et comment vous évaluez le niveau? Parce qu'il y a anglais et anglais. Donc, comment, il y a des critères de très, très langue maternelle?
Oui, alors voilà, c'est vous-même qui évaluez votre propre niveau de la langue native à. Je suis débutant, etc. Vous avez 5 niveaux que vous pouvez vous auto-évaluer. Voilà, c'est vraiment...
Grégory Clément, notre coach du jour.
Alors tout d'abord, bravo Laurie pour ton projet, c'est top. J'avais une question, moi c'est sur le modèle économique. De ce que je comprends, c'est gratuit pour les clients, donc doit faire plaisir aux auditeurs d'Europe 1. et payant pour les entreprises, à savoir les écoles et les universités. Quel est le coût pour une école, pour une université, quelle est la profondeur de clientèle que tu as possible et du coup, quel est en fait derrière le business model de l'entreprise?
Alors, c'est un abonnement à l'année, donc annuel. Ensuite, le coût, ça dépend en fait du nombre d'utilisateurs que l'entreprise ou l'école a ou souhaite avoir. Donc, ils vont nous donner un nombre d'étudiants, par exemple, de leur université et nous, on va évaluer ça avec un devis qu'on va leur donner.
Et du coup, c'est quoi la fourchette de prix pour un... Imaginons, j'ai une université, j'ai 3000 étudiants.
Ça va être environ... alors vraiment, je dis comme ça, mais ça va être 4000 à 6000... 6000 euros. par an.
Vous avez déjà fait matcher, entre guillemets, combien de personnes grâce à votre
alors,
appli
là, on a 20 000 inscrits déjà là, sur l'application. En match, à vrai dire, je ne sais pas vraiment. Je sais combien de personnes ont fait des actions. Mm-hmm. Donc ça peut être, je crois, 200 000 actions qui ont été faites. Après, ouais.
Vous n'avez pas un retour, parce que comme l'idée c'est d'améliorer l'apprentissage de la langue étrangère, est-ce que vous avez un retour sur le niveau, sur la progression de chacun?
Le retour que j'ai, donc si, il y en a beaucoup qui se sont fait des amis, surtout ça, c'est le retour que j'ai eu.
Un chouette réseau social aussi.
Mais un retour très intéressant, c'est que moi je pensais que en France, on allait tous choisir à apprendre l'anglais. Bien, c'est par exemple le japonais et le coréen qui ressortent le plus. Et même les langues des signes, c'est pour ça que j'insiste dessus, parce qu'on n'a jamais eu l'occasion en fait, de pratiquer les langues des signes. Et quand je pense que les utilisateurs le voient, ils la choisissent. Parce qu'il y a langue des signes française, internationale et américaine.
Et vous êtes présent partout en France et même dans le monde.
Oui, voilà. C'est une application donc, qui est disponible sur Google Play Store et Apple Store gratuitement, donc un peu partout dans le monde.
Ça s'appelle Live. Merci, Laurie Louvet, d'être venue nous en parler.
Merci.
Il est midi 56. Europe 1. Restez avec nous dans La France Bouge. Gros plan sur les chaussettes. Les chaussettes ne se cachent plus, disait il y a quelques années une fameuse marque de chaussettes dans une publicité. Elles peuvent être aussi très utiles. On peut leur donner une seconde vie. Là aussi, des Français ont des idées. C'est notre dossier du jour et ce sera juste après le journal de 13h.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France bouge, seconde partie.
Ma chaussette est percée en son extrémité. À cet endroit précis, elle devrait être close. Brave gens, comprenez.
Et oui, on parle chaussettes dans La France bouge. C'est le dossier du jour. Toute une série d'innovations, d'initiatives sont lancées sur ce sujet. Pour en parler, nous sommes avec notre coach du jour, Grégory Clément, le cofondateur de Bagel Corner, Dora Nana, qui m'accompagne toute la semaine, journaliste à la rédaction d'Europe 1. Les chaussettes, oui, on n'en parle pas assez, mais c'est un sujet éminemment important. La fabrication d'une chaussette, savez-vous qu'elle est polluante? Pour vous donner une idée, une paire de chaussettes coton de 60 grammes a besoin de 1350 litres d'eau, l'équivalent de 20 douches. Et même la fin de vie d'une chaussette est polluante parce que 90% d'entre elles sont jetées à la poubelle. Je crois d'ailleurs, Grégory Clément, que vous en avez jeté récemment. Je crois ce matin.
Effectivement.
Faut pas dire les choses en antenne, on les récupère à chaque fois.
Ce matin, j'ai mis mes chaussettes et quand je l'ai mis, j'ai vu un trou au bout. Et je me suis dit, ça allait à la poubelle. J'ai été un mauvais élève.
Alors justement, plutôt que de jeter ces chaussettes trouées comme l'a fait Grégory ce matin, pourquoi ne pas les transformer en un nouveau vêtement? Et c'est ce que vous avez fait. Bonjour Marcia de Carvalho.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous.
Merci.
Mais oui, d'abord, je vais vous présenter. Vous êtes la fondatrice de Chaussettes Orphelines. Vous, tout a commencé en rangeant les tiroirs de vos deux garçons. Vous avez trouvé des chaussettes et vous vous êtes dit, mais il faut en faire quelque chose.
Absolument, comme beaucoup entre nous, nous connaissons tous ces phénomènes, les chaussettes perdues. D'ailleurs, c'est tellement sympa que ça parle d'un sujet grave, les déchets textiles, de façon optimiste. C'est ce que nous aimons dans les projets, entre autres. Effectivement, 300 millions de chaussettes mises sur le marché par an, 10% seulement retrouvés dans les centres de tri. Il fallait absolument faire quelque chose, il y a énormément à faire.
Donc, vous avez fait, parce que le recyclage, vous êtes né dedans. Hein, je crois que votre père était déjà très avant-gardiste sur la question. Hein, il recyclait déjà. Et donc, vous vous êtes dit, avec les chaussettes de mes enfants, des chaussettes fantaisie, à rayures, à couleurs, vous avez commencé, je crois, à créer des mini-collections de chapeaux.
Des mini-collections en patchwork. La chose, c'est que très vite, grâce à vous, à la presse, on a commencé à avoir beaucoup de chaussettes. Et là, il a fallu trouver une autre solution, que c'était transformer toutes ces chaussettes en fil pour pouvoir retricoter et donner effectivement une nouvelle vie à tous ces textiles, et avec un impact environnemental et social immense.
Alors, juste, c'est ça l'idée de Chaussettes Orphelines, votre entreprise?
Chaussettes Orphelines, c'est ça. C'est transformer l'inutile en beau et utile. Parce qu'avec les fils, nous ne faisons pas que des chaussettes. Mm-hmm. Nous faisons beaucoup de chaussettes, mais aussi toute une gamme de produits, car à la base, je suis styliste de mode. Et donc, on fabrique des chaussettes, des pulls, des gants, tout ce que vous voyez.
Alors justement, avant de rentrer dans le détail de comment vous fabriquez, comment vous faites effectuer ce recyclage, je vous invite à, si vous en avez la possibilité, de vous connecter sur europe1.fr pour voir les merveilles. Il y a un bonnet, des petites pochettes, un sac, même une petite pochette pour pouvoir insérer, glisser son téléphone portable. On peut faire des tas de vêtements. Est-ce que
tout
vous portez aussi le gilet que vous portez?
Bien sûr, mon il petit bon verre, s'il est avec fait, des en chaussettes. Fil recyclé. Et tout ça, vous trouvez dans notre boutique en ligne, évidemment.
Grégory, notre coach.
Alors tout d'abord, Marcia, bravo, parce que moi, franchement, j'adore aussi les produits.
Merci.
J'ai vu ce matin et je serai client.
Super.
Une question, c'est aujourd'hui, donc le marché de la chaussette, c'est 300 millions de chaussettes apparemment mises sur le marché par an. 10% pour les chaussettes recyclées. Donc ça fait 30 millions de chaussettes. Quelle est la part de ce marché-là que vous visez à terme ?
Bah, effectivement, depuis les débuts, on a collecté déjà 10 tonnes. Ça fait 50 millions de chaussettes, soit une chaussette par Français. C'est quand même super. Et ce qu'on vise, c'est à doubler ces chiffres, doubler d'année en année, parce qu'il y en a beaucoup à faire.
Vous, le recyclage, donc vous les recyclez. Comment vous faites ? Je crois que vous recyclez 2 tonnes de chaussettes par an et tout se passe dans un centre de tri ?
Alors, effectivement, la première partie, c'est les tris. Donc, les tris, c'est par couleur. En triant par couleur, nous évitons la teinture, donc pas polluer l'eau, pas d'utilisation d'eau pour tous les process. En plus de l'insertion économique, parce que les personnes qui font les tris, elles vont trier par couleur et aussi elles vont trier celles qui sont en bon état. Celles qui sont en bon état, elles vont directement être données à des personnes qui ont besoin. Mm-hmm. Nous avons plusieurs partenariats, y compris avec des hôpitaux d'enfants malades. Et donc, tout ce qui ne va pas va être trié. Et ça représente une grosse quantité.
Et puis, je crois que vous défendez certaines valeurs aussi, hein, Marcia de Carvalho, puisque vous faites aussi travailler des personnes en réinsertion pour pouvoir fabriquer tous ces beaux produits.
En fait, j'apporte mon savoir-faire à des femmes qui sont en centre d'hébergement d'urgence toutes les semaines.
Donc, vous leur transmettez ?
Je transmets le savoir-faire et c'est des ateliers très conviviaux.
À Chanteloup-les-Vignes, c'est ça, hein ?
C'est à Chanteloup-les-Vignes, c'est les tris. Mm-hmm. Et à Montigny-les-Bretonneux, c'est les centres d'hébergement. Après, toutes ces belles choses vont être montrées au grand défilé solidaire que nous faisons une fois par an. Et les prochains sera aux écuries royales du château de Versailles.
Toute la production est faite en France et localement. Vous ne sortez pas ?
Tout à fait. Pour l'instant, tout est fabriqué en France et nous sommes très fiers.
Dora, je me tourne vers vous. Le marché de la chaussette, on a eu quelques chiffres par-ci par-là. Ça représente quoi exactement ?
C'est surtout un marché qui, depuis 10 ans, ne cesse d'augmenter. Il est passé du petit objet ringard qu'on portait tous, noir, blanc, à un véritable accessoire de mode, pailleté, court, long. Et aujourd'hui, ça pèse 600 millions d'euros. On estime que chaque année, ce sont près de 400 millions de paires qui sont vendues. Mais plus de 90% viennent de l'étranger, ces chaussettes. Essentiellement de Turquie, de Chine, du Bangladesh. Il faut savoir qu'une paire sur trois vendue dans le monde. Elle est fabriquée à Datang en Chine, qui est surnommée du coup la ville de la chaussette. Et les Français, en moyenne, on possède 17 paires de chaussettes, moins que les Anglais. Et les champions, ce sont les Allemands. Eux, ils ont 24 paires de chaussettes, 7 de plus que nous.
Ouais, nous, 17 paires de chaussettes dans nos tiroirs. Marcia de Carvalho, aujourd'hui, vous avez combien de salariés dans votre entreprise ?
Alors, nous sommes 3 dans la partie production, transformation. Évidemment, beaucoup de choses sont sous-traitées, hein, toute la fabrication en fil, après la fabrication des chaussettes elles-mêmes. Donc, on peut arriver environ à une trentaine de personnes dans les cercles de l'activité totale. Environ dans la partie plutôt insertion, il y a déjà en interne, nous sommes 5 pour animer les ateliers, faire les collectes, animer les collectes et toute cette partie sensibilisation à la réduction des déchets. Plus les 10 emplois que nous soutenons grâce au tri.
Pour la réinsertion. Dora ?
Vous êtes venue avec un super joli bonnet. Combien de paires de chaussettes pour faire un bonnet comme ça ? Depuis tout
Alors,
à l'heure, ça me...
Les bonnets, ils doivent peser environ 80 grammes. Chaque chaussette scellée, c'est environ 20 grammes. Donc, je dirais 4 chaussettes.
4 paires de chaussettes.
On reste ensemble. On continue à parler chaussettes dans La France Bouge. Il est 13h17.
Europe 1.
Une machine qui fabrique des chaussettes sur mesure, ça n'existe pas, sauf en France, avec les chaussettes rouges. Restez avec nous. Dans la France Bouge cet après-midi, on parle d'un accessoire que vous utilisez chaque jour. On parle de chaussettes et des innovations dans ce domaine. Vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Posez vos questions à nous inviter sur Twitter, hashtag Europe 1, ou alors nous appeler au 3921 Elisabeth.
Peut-être avez-vous en tête les chaussettes rouges que porte le pape.
Oui, hein,
ou Pierre Devineau. Des Français ont décidé de les distribuer. Petit à petit, un temple de la chaussette est né il y a 10 ans. Bonjour Jacques Tibérien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Vous êtes le cofondateur de Mes Chaussettes Rouges. J'ai dit les chaussettes rouges. Mes Chaussettes Rouges. Vous êtes spécialisé dans les chaussettes de luxe.
Exactement.
C'est ça. Hein. Tout a commencé sur le digital. Vous aviez 24 ans, il y a 10 ans, et vous étiez encore étudiant en école de commerce. Avec votre cofondateur, vous avez créé tout votre concept repose sur ces emblématiques chaussettes rouges d'une marque italienne, de la marque Gamarelli, c'est ça ?
Exactement. On a commencé encore étudiant. Et lors d'un voyage à Rome, Vincent Mesguer, mon associé, m'avait rapporté une de ses paires et on a trouvé très amusant d'avoir les mêmes chaussettes que le pape, puisqu'elles viennent de Gamarelli, qui est un tailleur à Rome, qui habille le pape, les cardinaux, les évêques, etc. Et quelques premiers ministres français aussi. Ces paires nous amusaient. On leur a acheté 50 paires au début, juste pour essayer avec un site one and one très moyen, et on les a vendues assez vite. Et donc, on a été très surpris par ce succès, et puis on en a fait une vraie entreprise. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une vraie entreprise. Alors, on distribue d'autres couleurs aussi, parce qu'on a donc Gamarelli, ils font que rouge pour les cardinaux, violet pour les évêques et noir pour les prêtres. Donc rapidement, les clients nous ont dit, mais ils ne voudraient pas faire autre chose, etc. Donc on a ajouté d'autres marques qui sont Mazarin, Bresciani, des très bonnes marques.
Et que vous
avez
rachetées.
On a racheté
Mazarin,
depuis Mazarin. Et alors, c'est une marque qui est aussi très emblématique parce qu'elle vient d'un tailleur, Stark & Sons, qui fait les habits d'académiciens. Et c'est les chaussettes vertes qui vont avec l'habit des académiciens. Donc, on a pas mal d'académiciens comme clients. Et voilà, et on innove chaque année. On essaye d'apporter de nouveaux produits. C'est amusant ce que vous disiez tout à l'heure parce qu'on a lancé...
Marcia, vous vous adressez à Marcia.
Oui, à Marcia, oui. On a lancé, nous aussi, une gamme super solide. Donc, avant le recyclage, il faut que la chaussette tienne.
Ah oui.
Et on avait fait donc, c'est les chaussettes super solides. C'est les plus solides du marché au test de la Martindale, qui est un abrasimètre, c'est-à-dire une machine qui teste la résistance à l'abrasion. Et on avait fait des calculs sur l'eau, parce que ça m'a beaucoup amusé dans votre introduction. Vous disiez qu'il faut un peu plus de 1000 litres d'eau. Et nous, ces chaussettes, on économise 500. Et c'est vrai que c'est un chiffre sur le 500 litres d'eau par chaussette achetée d'une certaine manière, parce qu'elles vont s'user moins vite et donc elles vont consommer moins de coton. On hésitait à communiquer sur ce chiffre parce que c'est tellement invraisemblable de se dire qu'on économise 500 litres d'eau avec des chaussettes extrêmement résistantes qu'on ne l'a pas beaucoup fait, mais voilà, comme vous me tendez la perche.
Vous avez l'occasion de le faire.
J'en profite.
Et justement, vous venez de parler de machines pour ces chaussettes ultra résistantes. En 2019, vous êtes lancé dans le sur-mesure, justement grâce à une machine que vous avez fait venir, que vous avez racheté en Italie.
Exactement.
Vous êtes formé pour faire des chaussettes sur mesure.
Exactement. En fait, on essaye d'innover tout le temps et ce qui n'existe nulle part au monde,
c'est des
chaussettes sur mesure. Vous demandez à Bernard Arnault où dans son groupe on peut avoir des chaussettes sur mesure, il ne sait pas. Il ne sait pas faire. Et c'est ça qui est vraiment une vraie innovation, c'est de se dire, il y a plein de clients qui ont des demandes très spécifiques parce qu'ils ont des très gros mollets, mais des petites chevilles.
Mais c'est quoi des chaussettes sur mesure? Parce que quand on fait un 38, fait un 38.
Non, pas du tout. Archi faux. Ce qui compte pour une chaussette, c'est le volume qu'on va insérer dedans. Et donc, si vous avez le pied large et si vous avez des mollets énormes, nous, il y a des clients qui nous disent que les chaussettes ne montent jamais assez haut, enfin celles que je trouve dans le commerce, parce que quand on a des mollets très gros, ça fait plus de volume. Et donc, la chaussette monte mécaniquement un peu moins haut. Mm-hmm. Et donc, pour tous ces clients-là, on peut leur adresser des chaussettes. Après, parce qu'on va choisir la profondeur de maille, le serrage d'élastique, etc. Donc, intervient la physionomie du pied, mais aussi les goûts personnels. Il y en a qui veulent du très serré, d'autres du très large, d'autres du extrêmement fin. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut choisir. Et ensuite, vient bien sûr les couleurs, la hauteur du talon, enfin, plein d'éléments. Il y a même un client, je vais vous dire.
La demande la plus folle, oui, je vais vous dire.
Il y a un client, là, juste avant Noël, il a un peu toqué, enfin un peu maniaque sans doute, et il nous a dit
pourquoi
il a cinq résidences, bon, il a les moyens de ses maniaqueries, donc il a cinq résidences, il voulait que son tiroir à chaussettes soit strictement identique. Et donc, il nous a fait marquer sous la semelle le nom des résidences. Comme ça, à chaque fois, quand il voyage de l'une à l'autre.
Ah oui. On est dans le très, 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 très haut de gamme. Là.
Ouais, voilà.
Très luxe.
Et effectivement, non, mais on a des demandes complètement dingues. Enfin, on a des clients qui sont parfois des milliardaires américains, des princes, etc. Et bon, après, ce n'est pas non plus le gros de notre clientèle. On vend beaucoup de cadeaux, en fait. Donc
Le sur-mesure,
c'est le plus amusant, sont ces clients extraordinaires. Mais la réalité de notre clientèle, ça reste des gens qui viennent acheter des chaussettes à 20 euros, soit pour faire un cadeau parce que c'est les chaussettes du tailleur du pape, soit parce que c'est les plus solides du marché, donc ça les intéresse aussi. Il n'y a pas besoin d'être agrégé de maths pour comprendre que même à 20 euros, une paire, si on va la garder 10 fois plus longtemps qu'une paire à 5 euros, c'est assez intéressant.
Achetez moins, mais achetez mieux.
Exactement.
Grégory Clément, notre coach.
Bravo Jacques, beau projet et je suis persuadé de que ton offre répond à une demande. J'avais une question, moi c'est sur ton potentiel de marché en France et l'international. Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable d'envoyer des chaussettes sur mesure à l'export? Je pense par exemple notamment au Canada où il fait froid. Est-ce que tu peux répondre à cette demande?
Oui. On fait déjà 60%, avant la machine, on faisait 60% de nos ventes à l'étranger, on fait 80% en ligne et on est traduit dans 4 langues. Donc, c'est...
Donc vous avez pensé à l'international dès le début. Vous avez dit, il y a un marché mondial.
L'histoire de Gamarelli, le pape, tout le monde le connaît sur Terre. Et donc, notre marché, il est vraiment mondial. Et de fait, on a toujours beaucoup vendu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe de manière générale. On n'a aucune traduction dans des... langue asiatique, donc c'est un peu plus compliqué, même si on
ça viendra peut-être.
Ça viendra.
La machine, elle ressemble à quoi? Parce que vous êtes formé pendant un an, je crois. Ouais, vous êtes allé en Italie, vous avez fait des allers-retours.
Exactement.
Pour intégrer ce savoir-faire.
Il a fallu que je devienne ni plus ni moins que technicien et ça ne s'invente pas. Mm-hmm. Donc j'ai pu récupérer des polis d'une école textile, d'ingénieur textile à Roubaix. Donc je me suis formé sur le tricotage circulaire. Et ensuite, j'ai passé presque un mois à Brescia, qui est une magnifique ville d'Italie, à côté de Milan, la deuxième ville de Lombardie. Et j'allais à l'usine le matin, j'étais formé, je repartais le soir. C'était très sympa.
Très sympa. On reste ensemble, on continue à parler des chaussettes sur Europe 1.
Il est 13h27.
Europe 1.
Une paire de chaussettes vendues, une paire de chaussettes données aux sans-abri. C'est l'ingénieuse idée de Bonpied. À tout de suite.
Créateur d'entreprise, lancez-vous. La France bouge avec BNP Paribas et on parle innovation dans La France bouge. Comme chaque après-midi, innovation dans le domaine de la chaussette fabriquée en France. Pour agir, c'est simple, il y a Twitter, hashtag Europe 1. Il y a aussi le téléphone, vous pouvez nous appeler au 3921, Elisabeth.
Oui, savez-vous que les chaussettes sont les accessoires les plus demandés par les sans-abri? Et c'est ce qu'a pu constater la cofondatrice de Bonpied lors des maraudes avec la protection civile. Bonjour Sandrine Vergnori.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Bonpied. Une paire achetée, une paire donnée, c'est ce que vous proposez avec Bonpied, vos chaussettes bienveillantes, des chaussettes fabriquées dans le Limousin par Brousseau Textile, que l'on connaît sur Europe 1, une entreprise historique qui fabrique des chaussettes. On peut les voir déjà, avant de commencer, ces chaussettes sur europe1.fr. On trouve des très jolis modèles, des modèles pour femmes, des modèles pour les hommes, avec un prix moyen de 18 euros.
Voilà, précisément.
Comment ça a démarré votre histoire?
Eh bien, écoutez, j'ai rejoint la protection civile en tant que bénévole il y a 3 ans. Et j'ai commencé à m'impliquer dans les maraudes sur une base hebdomadaire. Tous les mercredis soirs, je tourne dans le 12e arrondissement de Paris. Et j'ai pu constater sur le terrain que les gens me demandaient quasiment systématiquement des chaussettes. Parce que ce sont des articles qui sont légers, peu encombrants et qui vont rapidement être utiles.
Et extrêmement utiles puisqu'ils marchent beaucoup.
Voilà, en fait, les personnes à la rue parcourent de 10 à 15 km par jour pour aller de ressource en ressource, pour aller à la bagagerie poser leurs affaires, pour aller prendre leur petit déjeuner, l'endroit pour la douche, un autre endroit pour manger à midi. Et donc, de ce fait, leurs chaussettes s'usent très rapidement. Donc, ils en demandent dès qu'ils en ont l'occasion. Malheureusement, moi-même, en tant que bénévole à l'association, je voyais qu'on récoltait surtout des grosses pièces, des pantalons, des manteaux, des pulls, mais pas vraiment de chaussettes, parce que finalement, vous comme moi, on a le même geste quand les chaussettes sont utilisées. comme Grégory, qu'on a dénoncé ce matin et qui a jeté ses chaussettes. Voilà, on est 90% à le faire, donc
il n'y a pas que vous, Grégory,
jette pas la pierre. Voilà.
Donc là, on est en 2017. Vous, parce que vous êtes complètement bénévole, hein, vous travaillez par ailleurs. Et donc tout a commencé en 2017. Vous vous êtes dit, je vais moi créer mes propres chaussettes.
En fait, la prise de conscience a été plus graduelle que ça. Et pendant l'année 2018, je me disais que c'était un modèle peut-être où on vendrait à chaque fois qu'on vendrait une paire, on en donnerait une aux associations pour qu'elles les distribuent aux personnes à la rue. Et c'est en fait en échangeant avec des amis basés à Nantes et qui travaillent dans le textile depuis très longtemps, qu'eux ont complètement adhéré à l'idée et se sont dit que c'était en effet quelque chose qu'ils voulaient faire avec moi et m'apporter leur expertise textile pour créer cette marque, donc Bon Pied.
Alors comment vous y êtes pris? Parce que vous n'y connaissiez rien dans le textile, j'imagine. Donc vos amis vous ont aidé, vous avez dessiné des modèles.
Voilà, ils ont commencé à dessiner des modèles. On a cherché systématiquement, finalement, parmi tous les fabricants en France, il y en a encore une vingtaine. On les a contactés et Brousseau nous a répondu favorablement pour lancer une première gamme très resserrée de 4 modèles. Et pendant ce temps-là, moi, je m'occupais de la partie administrative, de créer la société, etc.
Vous avez mis des fonds pour vous lancer ?
Oui, voilà.
Des fonds personnels ?
On a mis au début 3000 euros chacun et on s'est lancé dans une campagne sur Ulule au courant de l'été 2019. Et ça nous a amené à notre première livraison de nos généreux clients à partir de mi-octobre.
Donc
quand
ça
on
fait
a
à peine quelques
stock.
Mois depuis la mi-octobre. Combien de chaussettes déjà, de paires vendues?
Mais vous avez le compteur en direct sur le site bonpied.eu. On en est à environ 1200 paires de chaussettes qui ont été données.
1200 paires de chaussettes données. Grégory Clément, notre coach, ça vous inspire? Alors, quoi?
Tout d'abord, je voudrais dire que je ne jetterai plus jamais de chaussettes.
C'est terminé.
Déjà, je voulais juste féliciter Sandrine pour son projet. C'est top de voir des projets avec un vrai impact social. Derrière, ma question c'était plus sur les canaux de distribution de tes paires de chaussettes Bon Pied. Est-ce que vous avez une boutique? Est-ce que vous avez des redistributeurs? Est-ce que vous avez un site internet? Comment aujourd'hui on peut acquérir ton produit?
Pour l'instant, la distribution est 100% en ligne, donc sur le site bonpied.eu. On n'exclut pas à l'avenir d'ouvrir une boutique, mais disons que la revente à travers des intermédiaires qui prennent des commissions ne nous est pas pour l'instant accessible, dans la mesure où à chaque fois qu'on vend une paire, on doit en acheter deux. Donc nos marges sont un peu plus contraintes que nos autres amis qui fabriquent des chaussettes en France. Donc pour l'instant, c'est 100% sur le site.
100% sur le site. Donner une seconde vie aux chaussettes, Dora, je crois que vous avez trouvé des associations qui s'en chargent aussi.
Oui, j'ai appris qu'il existait différentes collectes de chaussettes, de la paire non usée à l'orpheline, celle dont on parle depuis tout à l'heure, qui traîne dans nos placards et dont on espère toujours retrouver la seconde.
On espère,
un jour.
Mais elle ne revient
elle
jamais.
Elle ne revient jamais, ça, c'est le mystère de la chaussette perdue. Eh bien, il y a une association, Soc en Stock, qui les récupère, il trie, reforme des coupes de chaussettes, les lave et les redistribue gratuitement. Ils sont 39 bénévoles qui se relaient, donc on salue leur travail. Et la belle histoire du jour, c'est vous qui me l'avez fait découvrir, Elisabeth, elle se passe au Canada. C'est Bob Rutherford, un homme de 88 ans qui, à la disparition de sa femme, il s'est lancé un défi, tout simplement, tricoter un maximum de chaussettes pour réchauffer les pieds des sans-abri canadiens. Et il a créé seul ses deux machines à tisser, il a réuni tous ses amis retraités et depuis, réunion tricot toutes les semaines. Résultat, 10 ans plus tard, 11 000 paires ont déjà réchauffé les pieds des sans-abri canadiens.
Ça peut, nous donner des bonnes idées, hein, Sandrine Vernioli.
Tout à fait.
Comment vous allez vous développer? Ce sera quoi la suite de votre histoire avec Bon Pied?
L'idée, c'est par exemple, par ma présence aujourd'hui, c'est de gagner en notoriété et en fait de m'appuyer sur le bouche à oreille, sur le fait que nos designs sont uniques, que la qualité est là, du fait que les chaussettes sont fabriquées en France. Et en fait, comme elles sont assez souvent offertes en cadeau, finalement, celui qui achète est au courant du concept, mais celui qui reçoit aussi la paire de chaussettes peut lire sur le label que en fait un beau geste
un
a été fait.
Un cadeau qui a du sens. Et je crois que vous étiez parti sur 4 modèles et maintenant vous allez en sortir bientôt 9, c'est ça?
On en a déjà 9 de disponibles sur le site et on est en train de développer une gamme avec des modèles en fil recyclé qui sont dans des couleurs plus sobres. un petit peu destinée à notre public masculin qui cherche des chaussettes unies, Grégory, bleu marine ou noir.
Mais non, Grégory. On reste ensemble, on continue à parler chaussettes dans La France Bouge.
Il est 13h36. Europe 1.
Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions, si vous en avez. Est-ce que vous aussi, vous recyclez des chaussettes? Est-ce que vous achetez des chaussettes sur mesure? Est-ce que ça vous tente, hein? Pourquoi pas, Céline?
Ben oui.
Écrivez-nous sur Twitter.
Oui, vous pouvez nous écrire avec le hashtag Europe 1. Vous pouvez aussi nous appeler au 3921. Europe 1. Cet après-midi, dans La France Bouge, on parle de chaussettes, des chaussettes made in France, fabriquées en France, et des innovations dans ce domaine.
Il manque quelque chose.
Mon maillot et mon bonnet.
Ah, voilà.
C'est Dorothée qu'on a reconnu.
Oui, on l'a retrouvé. Très bien. Oui, nous sommes toujours avec Grégory Clément, le cofondateur de Bagel Corner, qui est notre coach du jour avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1. Et nos invités avec vous, Marcia de Carvalho, la fondatrice des Chaussettes Orphelines, Jacques Thiberguien, le cofondateur de Mes Chaussettes Rouges, des chaussettes sur mesure avec une machine spéciale. Ils sont à Paris et vous êtes aussi sur Internet. Et Sandrine Vergnori, la cofondatrice de Bon Pied, les chaussettes bienveillantes. Les chaussettes sont inspirantes pour nos amis auditeurs.
Oui, on a une question de Marc sur Twitter, hashtag Europe 1. Question technique, hein, vous allez l'entendre. Comment mieux choisir ces chaussettes pour ne pas avoir trop chaud en été et trop froid en hiver?
Qui répond?
Ah bah, moi, j'ai,
Marcia de Carvalho.
Je peux proposer la question de la chaleur. Ce sont des questions de choix des matières, avant tout, hein, parce qu'évidemment, il y a des matières qui sont beaucoup plus légères, comme il y a des matières qui sont thermorégulatrices, comme les lins, qui est aussi bien en hiver et en été. Après, évidemment, en hiver, on va choisir une chaussette avec plus de laine, qui d'ailleurs est antibactérienne. C'est très intéressant. Et puis, en été, ben on va aller vers les cotons. Mais si on peut aller vers les cotons recyclés, c'est très bien parce qu'on sait que les cotons utilisent énormément d'eau pour être plantés. Donc, coton recyclé, s'il vous plaît.
Dora, justement, la chaussette, je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Hein. Marcia nous parlait de lin, de coton.
Oui, il y a même des chaussettes qui sentent bon.
Ah,
la marque Cupidon propose des chaussettes parfumées, bois de santal, verveine, fruits rouges. Alors ça marche comment? C'est qu'au frottement du pied, il y a des micro-capsules intégrées dans le tissu qui se cassent et qui diffusent une odeur parfumée. Elles sont fabriquées dans la Haute-Vienne, ces chaussettes, et garanties 15 lavages. Et pour tous les malheureux de la chaussette orpheline dont on parle depuis tout à l'heure, il y a 5 crespins, des chaussettes imperdables grâce à un petit bouton pression sur le haut de la chaussette. Donc on les colle toutes les deux, des chaussettes Madine, Limousin et Bourgogne.
Ah bah comme quoi, tout est possible et surtout on peut avoir une solution pour tout. Sandrine Vergnori, vous pour l'instant vous êtes en France hein, avec Bon Pied, les chaussettes bienveillantes, une paire achetée, une paire offerte au sans-abri. Est-ce que vous comptez vous développer à l'international? Parce que c'est une idée je crois qui existe déjà aux États-Unis. Mais est-ce que vous, via le site internet, vous pouvez aller partout?
Tout à fait, il y a finalement aucune limite. On l'entendait plus tôt dans l'émission, le marché anglais est plus grand que celui français et encore plus en Allemagne. Donc ce sont évidemment des territoires que je souhaiterais explorer et sur lesquels, a priori, il n'y a pas encore d'acteurs sur ce modèle-là. Pour autant, aux États-Unis, il y a déjà des acteurs en place. Donc on va aller à la conquête de l'Europe.
Mais oui,
déjà avec ça, on a 250 millions de consommateurs.
Grégory ?
Quels seront vos premiers pays cibles, justement, quand on parle d'Europe ? Est-ce que vous avez un peu déjà des idées de target, de clients ?
Pour moi, le plus simple, ça va être d'aller en Angleterre, parce que l'anglais est accessible. Et après ça, l'Allemagne, parce que c'est trop tentant. C'est là qu'on parlait des 24 paires de chaussettes possédées par les Allemands. Ils sont nombreux, donc je pense que dans l'ordre, ce serait ça, l'Angleterre d'abord et l'Allemagne après.
Marcia de Carvalho, vous aussi, vous êtes sur l'international déjà?
Je confirme que l'Allemagne est un très bon marché. Nous avons fait plusieurs salons en Allemagne parce que c'est l'Allemagne.
Des salons de la chaussette?
Non, c'est des salons de mode éthique.
D'accord, oui.
Et c'est les Allemands, ils sont très précurseurs dans ces domaines. Donc, effectivement, c'est les pays où j'ai vendu les premiers des chaussettes recyclées, c'est en Allemagne et aussi en Belgique, un petit peu en Angleterre.
Et en France, ça vient petit à petit. On commence à prendre conscience de tout
en
ça.
En France, ça devient, et je trouve que ça se développe énormément. On va suivre les chemins de la nourriture bio. Maintenant, les vêtements éthiques avec des soucis d'impact environnementaux, c'est l'avenir. Tout le monde, beaucoup de gens sont au courant et les jeunes ont vraiment envie d'aller dans cette
Les
jeunes
direction.
Et les moins jeunes, quoi. Tout le monde qui a envie de sauver la planète. D'ailleurs, on dit sauver la planète avec vos chaussettes, c'est le pire, non?
Et vous, Jacques Thiberguin, dans vos clients, malgré les demandes les plus insolites dont vous nous avez parlé tout à l'heure, il y a cette notion de chaussettes recyclées, de durée de vie de la chaussette. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous demande dans votre magasin
tous les jours,
en ligne?
Tous les jours. Nous, tout notre... combat, c'est vraiment d'orienter le client vers ce qu'il attend le plus. C'est-à-dire que celui qui veut, et ça rejoint la question de tout à l'heure, celui qui veut des chaussettes légères, il faut qu'il s'oriente vers des chaussettes légères. Celui qui veut de la chaleur, il faut qu'il aille vers de la laine, effectivement, que ce soit de la laine mérinos, du cachemire, etc. Et celui qui veut du solide, il ne faut pas qu'il prenne quelque chose d'extrêmement fin, parce que ça ne sera pas éternel. Donc, il y a un gros travail d'éducation, et notre machine, justement, sert aussi à éduquer.
À orienter.
On l'a un peu... Ce qui nous a inspiré dans ce projet, c'est l'agriculture urbaine. L'agriculture urbaine, le type qui a en bas de chez lui, dans sa ville, un potager, il va arrêter de vous demander des tomates en décembre, parce qu'il voit bien que ça ne pousse pas. Et plus on est capable de créer du lien entre le client et la production, plus il va comprendre, plus il va respecter le produit.
Et plus le produit va durer.
Et plus le produit va durer. Et donc, nous, on est vraiment dans cette démarche-là. Et alors, ce qu'on fait... en dehors du sur-mesure, bien sûr, mais toute la partie prêt-à-porter, qui représente encore 98% de nos chiffres d'affaires, elle est fabriquée en Italie. Donc, ce n'est pas la France, mais c'est l'Italie
mais
du
vous
Nord.
Mais c'est vous qui...
Il ne vous aura
qui,
pas échappé par ailleurs que, comme les cotons viennent d'Égypte et qu'ils vont ensuite en France, l'Italie est sur le chemin. Donc, qu'on transforme finalement, ou d'ailleurs dans nos boutiques à Paris ou en Italie, l'impact environnemental est proche. Et ouais, nous, notre grosse démarche, c'est cette gamme super solide qui existe et en laine et en coton et qui, en fait, réduit beaucoup, beaucoup la production de nouveaux cotons et de nouvelles laines. Voilà.
En tout cas, merci. On en sait davantage sur les chaussettes. On n'imaginait pas avant l'émission. Merci à tous
merci
les trois, en tout cas, d'être venus nous présenter
merci beaucoup.
Vos innovations autour des chaussettes, vos belles idées. On le voit même dans ce domaine dont on ne parle pas souvent. Les Français innovent, ils se bougent et c'est ce que nous découvrons chaque jour avec vous dans La France Bouge.
Il est 13h46. Europe 1. Plus de 8000 produits issus de producteurs locaux qui se trouvent partout en France. 80% d'entre eux sont ultra frais. Ils peuvent arriver directement chez vous pour debon.com et l'entreprise qui va bien. À tout de suite. Europe 1.
Et c'est l'heure à présent, Elisabeth, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Elle va bien et elles sont bonnes. Ça a l'air très très bon.
Oui,
hein. Bonjour Nicolas Machard.
Bonjour à tous.
Je vais vous demander de vous rapprocher du micro. Vous êtes le cofondateur de pourdebon.com. Pourdebon.com, c'est une place de marché hein, des petits producteurs. Pourdebon, c'est d'abord l'histoire d'un passionné d'Internet, du digital et d'un amoureux des bons produits. C'est un petit peu ça.
Tout à fait.
Hein, c'est quoi exactement? C'est de la livraison à domicile de produits frais issus de producteurs présents partout en France?
Locaux. Tout à fait. En fait, j'ai une équipe avec moi qui nous regarde, je pense, et qui nous écoute. Et qui s'occupe de sourcer en fait, les meilleurs produits des meilleurs producteurs de nos terroirs, donc aux quatre coins de la France. Voilà, donc le métier de Pour de Bon, c'est ça, c'est d'aller sourcer ses produits, d'aller sourcer ses producteurs, de raconter les histoires de nos producteurs. Et puis d'assurer toute la logistique et la digitalisation en fait de ces offres sur Internet.
Alors, la logistique, c'est hyper important, surtout quand on parle de produits frais, hein, de produits frais à livrer. Donc vous êtes fait partie, faut le dire, des tout premiers à avoir travaillé sur les nouveaux médias, puisque vous avez attrapé le virus Internet en 1999.
Donc
au moment de Lycos et compagnie, hein, on n'était pas encore sur Google.
Tout à fait.
Et donc là, vous êtes un amoureux d'Internet, un amoureux des produits, parce que vous êtes aussi petit-fils d'agriculteur et fils d'agriculteur aussi.
De viticulteur. Du côté de mon père, effectivement, on est toute une famille de viticulteurs, donc en Bourgogne. Et du côté de mon grand-père, effectivement, enfin mon grand-père, comme beaucoup, je pense, de vos auditeurs, avait des grands-parents dans la paysannerie, enfin dans l'agriculture. Effectivement, mon grand-père était dans la pomme de terre.
Et vous avez vous-même des vignes hein, à Nuits-Saint-Georges?
Tout à fait, oui. J'en ai la nue propriété pour le moment, pas encore l'usufruit, mais j'en profite quand même régulièrement.
Et pour monter pourdebon.com, tout a commencé avec une rencontre avec Chronopost.
Tout à fait. On est à l'hiver 2014 et Cyril, mon collaborateur, enfin mon associé et moi, rencontrons toute l'équipe dirigeante de Chronopost, qui à ce moment-là avait décidé de se lancer dans le transport alimentaire en frais. Donc le projet était assez avancé et ils se posaient des questions sur la manière de développer leur offre par le biais du digital. Donc fort de mon capital digital
en fait, pour l'amour des bons produits.
Des bons produits, ils m'ont questionné. On a échangé de manière complètement informelle jusqu'à ce que naît l'idée en fait de créer cette place de marché. Et en fait, j'ai eu cette chance de me voir confier ce projet par Chronopost, financer ce projet.
Chronopost a financé votre projet.
Tout à fait, au tout début. Donc, on était en mode incubation, en fait, dans les locaux de Chronopost. Et donc, Cyril et moi, on a commencé à bâtir, poser les premières pierres de Pour de Bon. On a défini son univers de marque, on a défini quel allait être le positionnement de Pour de Bon, donc un positionnement très B2C pour commencer.
Pour les particuliers, pour nous tous, hein, voilà. Pour pouvoir recevoir les bons produits. Et en 2016, en décembre 2016, là, vous lancez officiellement Pour de Bon.
Tout à fait. Et en partenariat avec un partenaire, Webedia, en fait, ouais. Et plus précisément le site 750 grammes et l'Académie du goût,
oui.
Voilà, qui sont des sites qui véhiculent en fait les plus belles recettes des meilleurs chefs du territoire français.
Alors là, vous nous avez apporté un échantillon, si on peut dire, de ce qu'on peut recevoir quand on commande sur Pour de Bon. Vous pouvez nous décrire ce que vous nous avez apporté?
Alors là, vous avez la Tom Dosso Irati, qui vient de la ferme La Salle, de Marie-Ève La Salle, qui est une bergère fromagère qui pratique l'estive encore dans la vallée d'Aspe et qui, pendant 4 mois, part dans le haut de ses montagnes avec ses brebis.
Les pommes de terre, mais
voilà,
pas n'importe lesquelles.
Les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, c'est la maison Bayard. Maison Bayard, qui est une productrice de pommes de terre dans les Hauts-de-France. Une... 27 variétés quand même de pommes de terre,
ouais,
c'est dire.
27
c'est,
variétés.
Alors, et là, je crois que vous avez une prunelle, vous avez de la bluebell, vous avez différentes type de pommes de terre. Le flan Savary, qui est devenu une institution à Beauvais, qu'on appelle aussi le flan beauvaisien. Voilà. Puis des herbes aromatiques qui viennent de Menton.
Ça, c'est ce qu'on peut recevoir si on commande sur pourdebon.com. Grégory, notre coach, ça vous inspire, j'imagine,
effectivement,
Bagel
beaucoup,
Corner.
Parce que donc, nous, on a confondé une chaîne de restaurants, un Bagel Corner, qui se développe principalement en franchise avec mes associés. Et pour nous, l'éco-responsabilité et la qualité des produits, c'est primordial. Hein, tous nos produits sont frais et on incite nos franchisés à aller en local pour récupérer leurs fruits et légumes. Et moi, ma question que j'avais à Nicolas, que je félicite d'abord pour son aventure entrepreneuriale, c'était qu'est-ce qui se démarque en fait, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous vous démarquez vraiment de vos concurrents? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'initiatives comme ça.
Donc, qu'est-ce qui vous démarque?
Alors, ce qui nous démarque, je dirais d'abord, c'est déjà c'est la sélection des producteurs.
Ouais, vous avez énormément de demandes et il y a très peu de reçus. Hein.
Oui, effectivement. Maintenant, après 3 ans d'activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va moins chercher des producteurs. Ils viennent plus naturellement à nous. En fait, déjà, premièrement, c'est la qualité de la sélection de nos producteurs. On va vraiment chercher des producteurs qui produisent des produits de très, très bonne qualité. C'est des petites exploitations. Ensuite, c'est tout le savoir-faire digital, la manière dont on va valoriser les produits et les producteurs. C'est mettre en avant ces histoires qui sont souvent effacées derrière le produit. Donc nous, on va rencontrer les producteurs, on va les filmer, on va photographier leurs produits. Donc ça aussi, c'est un facteur différenciant. Et ensuite, je dirais, c'est la logistique. Enfin, on a cette chance d'être adossé à l'offre.
Chronopost, voilà. Webedia, les bons produits, votre amour pour les bons produits. Tout est réuni. Merci Nicolas Machard.
Eh bien, écoutez, merci à vous.
D'être venu nous parler de pourdebon.com, l'entreprise qui va bien. C'est la fin de votre émission. Merci Grégory Clément d'avoir joué le coach. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Bagel Corner. C'était votre première en tant que coach. Ça va, ça s'est bien passé?
Ouais, j'ai adoré.
Bon, nous aussi, on était ravis. Merci Dora. À demain. Céline, à demain. À demain.